Pour commencer cette émission, voici tout d'abord les titres du journal d'aujourd'hui.
Info locale, un pâté de maison réquisitionné à Scarbeck.
Justice, un promoteur immobilier condamné à une peine d'indignité propriétaire.
Psycho, la multipropriété, c'est pas bon pour la santé.
Enquête, comment les communards se sont-ils emparés du tunnel métro numéro 3 ?
Bataille de Key West. 500 flics battent en retraite face aux 10 000 personnes mobilisées à la Z de la digue.
Effet de mode ou nouveau paradigme ? La plus grande vague de squats que Bruxelles a connue depuis des années.
Commune libre. Après Molenbeek, Forêt déclare son autonomie.
Kermesse de rue à Etterbeek. Encore un succès face aux huissiers expulseurs.
Tendance. Être multipropriétaire, ça craint.
Discount. Au quartier nord, moins 50% sur toutes les arachides.
Do it yourself. Fabrique un bac à légumes avec la Tesla de ton proprio.
Scandale. La famille royale condamnée pour entrave au droit de logement.
Presse, construction, propriété foncière, l'auto-organisation gagne du terrain.
Le GROUIC, groupe ouvrier d'intervention en construction, organise des ateliers de rénovation en construction au syndicat des locataires.
Chaque année à Bruxelles, le FRAP, le Festival révolutionnaire des alternatives à la propriété privée, rassemble plusieurs centaines de personnes pendant un mois. C'est un mois durant lequel on fête le recul de la propriété privée dans notre société. Je donne la parole à notre envoyé spécial qui s'est rendu sur place.
Je suis sur une grande place sur laquelle ont été installés des tonnels. Il fait encore frais, mais le soleil commence à arriver. C'est le début de l'après-midi et on entend des oiseaux au loin. Un camion arrive sur la place. Une chaîne de gens se forme pour débarquer des chaises pliantes qu'on pose dans l'espace laissé au milieu des tonnels. Une fois le déchargement des chaises terminé, je vais à leur rencontre. Il y a quelques personnes qui sont d'accord de me parler. Bonjour. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui à la fête ?
On a un chantier aujourd'hui qui démarre là pour rénover l'appart de Dim. Venir filer un coup de main, vous pouvez venir quoi. Il y a juste un papier à signer pour les assurances pour démarrer le chantier. Il y a des formateurs qui sont là, qui connaissent un peu le travail d'isolation. Donc on enlève toute la toiture. Une fois que la charpente est à nu, et ben on isole tout et on remet tout. Et en fait, comme on est hyper nombreux, ça prend quelques jours seulement. Enfin, c'est assez efficace. Donc, voilà, je suis venue un peu pour vous proposer de participer à ce chantier là.
D'accord, super. Je vois que derrière vous, il y a un stand avec du café, des biscuits, des fiches d'inscription pour des chantiers et pour des formations. Sur le côté, un grand dessin avec plein de personnages sur le toit d'une maison. Il est mis « Chaud chez toi ». D'où vous est venue l'idée de « Chaud chez toi », toi, T.O.I.T.
En fait, c'est une coopérative qu'on a montée avec deux copains qui sont travailleurs du bâtiment, qui existent depuis 2 ans. Il y a une quinzaine de gens qui sont passés par ces chantiers de formation. Ils sont devenus eux-mêmes formateurs. Ça brasse pas mal de gens.
Et en fait, là où c'est balèze, c'est que cette coopérative de travailleurs du bâtiment, elle a obtenu des financements hyper importants. Avec quoi ?
L'insertion socio-professionnelle.
Ouais,
c'est un centre de formation, en fait.
Et du coup, c'est un centre de formation, mais... et donc c'est comme ça qu'ils obtiennent le subside pour payer le travail. Et les chantiers de rénovation des bâtiments chez les gens, c'est ça l'exercice. La subvention a été obtenue parce que la région de Bruxelles elle a une telle ambition de rénovation qu'en fait, il faut trouver un moyen de faire ces rénovations de bâtiments. Et le truc qui m'a fait halluciner, c'est que le travail est déjà payé par la subside. Et par ailleurs, les proprios doivent payer le matos, quoi. Donc tout ce qui est achat de matériel.
Ok, c'est un fonctionnement très intéressant pour les personnes, d'uniquement devoir payer l'achat des matériaux sans la main-d'œuvre. Dans votre cas, pourquoi vous êtes venue là aujourd'hui ?
Moi, en fait, je suis une voisine. Je suis toujours dans mon appart en colocation, locataire de Madame Desvos. Notre proprio, elle... C'est une juge, elle est propriétaire de toute la maison. Elle a sa maison à Uccle, elle a sa maison à la mer. Et ça l'emmerde un peu de s'occuper de ces histoires de locataires. On a notre bail, mais en fait, c'est plus possible au niveau de l'isolation. Et là, avec mon coloc, on est en train de se demander comment on fait pour imposer des travaux dans cet appart, parce que... notamment le grenier là où loge mon coloc, la chaleur s'en va quoi. Comment on impose à la proprio des travaux ? Et donc là on va participer au chantier, voir un peu comment ça se passe pour être capable d'en parler à Madame Devos. Idéalement, On aimerait bien aller jusqu'à obtenir ce qu'a obtenu le copain à côté. Il a lancé un procès à son propriétaire qui lui a loué pendant des années un logement qui n'était pas un logement en fait, c'était un atelier. Du coup, il l'a poursuivi pour obtenir un dédommagement parce qu'il a payé trop de loyer. Et donc le proprio est assez vénère, mais surtout il a dû débourser un peu de thunes pour financer ses travaux. Ce qui lui a été proposé, c'est que le CLTB rachète le sol de cette partie arrière.
Je précise pour nos auditeurs et nos auditrices que le CLTB, c'est le Community Land Trust Bruxelles, une organisation qui développe des projets de logements abordables à Bruxelles pour des personnes à revenus limités. Il s'agit de séparer la propriété du sol de la propriété du bâtiment, ce qui permet de retirer le sol du marché immobilier. Votre proprio ne fait pas vraiment partie de leur public cible, mais le modèle pourrait l'inspirer.
Le CLTB rachète le sol et qu'il reste propriétaire des murs, et avec le rachat du sol, enfin, ça paye les travaux qu'on est en train de faire. Et donc on espère que cet exemple il va permettre de convaincre Madame De Vos qu'il est temps de faire les travaux de rénovation énergétique, en tout cas, de notre appart.
Il y a quelques années, on avait beaucoup parlé de la rénoviction. Cette législation dont l'objectif était de rénover le parc de logements bruxellois. La rénoviction avait surtout mis la lumière sur ce terme, les passoires énergétiques, terme qui faisait référence au mauvais état d'isolation des maisons. Ça avait complètement figé le débat dans une dimension technique, qui mettait la responsabilité sur les propriétaires individuels qui ne faisaient pas leurs travaux. Des propriétaires avaient fini par se faire expulser de leur maison parce qu'ils n'avaient pas l'argent de faire les rénovations. Le centre-ville de Bruxelles et des parties des quartiers populaires s'étaient complètement vidés de leurs habitantes. Et puis, il y avait eu la création d'un nouveau syndicat des locataires, axé sur les questions de mal-logement, qui avait alors rassemblé 300 personnes dans Bruxelles.
Je continue mon chemin plus loin à travers le festival. Un attroupement s'est fait devant la tonnelle du syndicat des locataires. Comment vous en êtes arrivé à rejoindre un syndicat des locataires ?
On est dans un immeuble où effectivement le propriétaire nous a annoncé de but en blanc comme ça, sans trop prévenir, que voilà, il allait devoir vendre son bien et que tout le monde était bienvenu de partir. Donc aucun des locataires s'était fait à cette idée. Enfin, on était tous projetés un peu à l'infini de temps, et des familles qui sont là depuis méga longtemps. Et bon, à ce moment-là, en fait, on se connaît pas trop entre voisins. Je travaillais beaucoup. On se connaissait pas trop, donc on s'est un peu résigné. On dit bon, bah mince, il va falloir partir, tout ça. Et puis un jour, je suis passée de l'autre côté de ma rue, où je passe pas très souvent, et j'ai remarqué qu'ils avaient annoncé le déménagement de la banque. Bon, j'étais pure passée par là. Et puis là, donc un jour, je tombe là, et en fait, j'ai dit quoi, il y a un nouveau magasin ou quelque chose. Il y a un groupe qui a profité du déménagement de la banque parce que. Il y avait un projet de méga-banque un peu plus loin dans le fond des Terbaies qui déménageait locaux. Et en fait, ils ont pris d'assaut le bâtiment. Et donc là, ils ont implanté une coopérative. Et donc, non seulement le syndicat des locataires, mais il y a plein d'autres différentes activités. Des cours réguliers, d'ouverture de maisons, plein d'activités comme ça pour les enfants et pour les adultes. Il y a tout un programme. Puis on voit, de toute façon, c'est en vitrine, donc on voit tous les gens à l'intérieur. Et puis les portes sont ouvertes. De 8h à 22h. Et donc là, on raconte qu'il y a un syndicat des locataires et qu'en fait, on peut passer quand on veut pour demander des conseils. Donc moi, sur le moment, je me suis dit, bah voilà, là, on a été un peu au dernier moment où on savait que les huissiers allaient venir parce qu'on avait un peu laissé couler, parce qu'on savait pas trop comment réagir. Et puis le propriétaire, bien sûr, il répond jamais. Et donc, là, ils nous ont dit, oui, mais on sait déjà qu'il y a des soucis, on allait venir vous voir parce qu'ils font du porte-à-porte aussi. Autour, dans les maisons. Et c'est comme ça que bah, ils sont venus à la maison. On a commencé à faire des réunions avec les autres gens de l'immeuble. C'est sympa parce qu'on ne se connaissait pas et on a commencé à parler un peu, discuter ensemble de ce qu'on pouvait faire.
Comment le syndicat des locataires vous a aidé face à votre propriétaire ?
Bah, ça en est fini. Est-ce que le jour où il y a eu les huissiers qui sont venus, on n'a rien compris. Il y avait plein de gens dans la maison. Mais vraiment, des gens qu'on ne connaissait pas. Enfin, je me dis, ils sont sortis d'où et puis ils ne connaissent pas. Mais enfin, la voiture des huissiers n'a vraiment pas réussi à atteindre la moitié de la rue avant notre maison, quoi. Commençait à faire une sorte de kermesse autour. Et ouais, donc ça ne s'est jamais passé. Donc le propriétaire est furieux, il est tout bloqué dans les démarches. Et donc via ce comité de quartier, donc on a pu avoir des avocats qui nous défendent en justice avec ce propriétaire qui nous accuse de je ne sais plus quel terme juridique il a employé, un truc hallucinant. Mais donc là, il y a encore des marges, mais ils sont assez positifs du fait qu'ils vont pouvoir gagner et que le propriétaire doit retirer le fait qu'il doit vendre ce bâtiment et qu'en fait, on puisse même récupérer éventuellement le bâtiment. C'est ça qu'ils essayent de mettre comme procédure. Donc voilà, on est plutôt bien partis et ça nous a un peu fédérés avec les familles qui vivent là. Même les vieilles personnes qui étaient très isolées, qu'on voyait jamais, ben voilà, ils commencent à prendre un peu à goût à faire des réunions ensemble.
Qu'est-ce que ça vous a apporté d'autre de rencontrer ce syndicat des locataires ?
Je pense qu'avec, on est très confiants avec les avocats solidaires qui nous défendent. Mais voilà, au cas où, on fait quand même des repérages pour ouvrir un nouveau bâtiment, au cas où. Parce qu'effectivement, il y a un système de genre de parrainage où il y a une personne qui nous suit un peu dans nos recherches. Et qui, quand on dit, bah voilà, là, on serait prêt pour une ouverture, bah, il nous accompagne. C'est hyper bien. Moi, je vais aux ateliers, là, toutes les semaines. C'est vraiment chouette. Ouais, les enfants des voisins adorent aussi y aller. Ils sont devenus super pros en serrure. C'est vraiment un atelier pratique très, très, très concret. Ça marche bien. J'ai pris goût à visiter un peu plus Bruxelles dans plusieurs quartiers. Bah c'est comme ça que je me baladais la nuit un peu pour regarder aussi les bâtiments dans Skarbek. Et c'est là que je me suis rendu compte que ouais, je ne connaissais pas du tout ce quartier. Il y avait... Ou alors beaucoup de choses ont changé. Et il y a des potagers urbains partout. Je me suis dit, mais c'est magnifique, ça sort d'où ce truc-là ?
C'est vrai, c'est magnifique. Moi aussi, je me suis déjà promenée dans ces quartiers-là. Mais vous, vous habitez dans ces quartiers, non ? Vous pourriez nous en parler un petit peu ?
Nous, à Skarbek, alors c'est le haut de Skarbek. Donc c'est des quartiers à la fois moitié précaires, moitié petit bourgeois de gauche, en gros, dans la composition sociologique. Mais en revanche, il s'est passé même quelque chose après les grandes manifs de mars 2023. Et il y a quelqu'un qui est venu du quartier, enfin un voisin qui est venu sonner chez moi, je ne connaissais pas. Quelqu'un qui me dit que, voilà, qu'il allait commencer à organiser des réunions de quartier pour créer un petit comité, pour voir ce qu'on pouvait faire à l'échelle locale. Quoi. Et en gros, ce qui s'est décidé, parce que ça faisait... Parce que c'était la première étape qui pouvait faire consensus entre justement les précaires et les petits bourgeois, c'est essayer de développer quelque chose de l'ordre plutôt de l'agriculture urbaine ou des potagers urbains, en commençant par le parc Josaphat, cultiver le parc Josaphat, quoi, pour produire de l'alimentation d'une part, avec cette idée que à terme, dans cette idée de rénovation, on pourrait faire pousser, moi j'y connais rien, moi je faisais pousser des tomates cerises sur ma soeur. Donc j'apprends en fait. Mais je crois qu'il est possible de faire pousser des trucs, je sais pas, de la paille, j'en sais rien, pour isoler mieux. Pour
en tout cas
aller dans du chanvre. Très bien, ouais, c'est ça.
C'est pas mal quoi, c'est...
Ouais.
Ça pousse vite.
Donc il y a cette piste. Là, on commence, pas moi qui le fais, mais il y a des voisins qui commencent à explorer cette idée de transformer une partie du parc Josaphat en champ de chanvre, qui permettrait de résoudre une partie de ces problèmes d'isolation. Et puis on a fini par, dans certaines rues, défoncer le béton de la rue, parce que bon, les gens n'ont plus de moyens de mettre de l'essence dans leur voiture, donc n'ont plus de voiture. Enfin, pas de moins en moins. Et donc, on a gardé les trottoirs, mais les rues, enfin l'espace où circulent les bagnoles, on a défoncé le béton et puis on commence à cultiver.
Je me rappelle une fois, on est allé là, on a coupé des voitures à la moitié, et on a planté des choses dans les voitures. Les voitures sont devenues des bacs.
Ah oui, la pratique.
C'est vrai, il y a eu cette étape-là.
Merci beaucoup. Une dernière question. Comment le syndicat des locataires a constaté qu'il pouvait avoir l'appui des banques dans la défense des droits des locataires ?
On a constaté ça en fait avec les anciens employés de la banque. Le syndicat des locataires a finalement fait un lien d'amitié en fait. Ça se passait plutôt bien parce que ces personnes-là étaient un peu dans un état dépressif profond, quoi. Aussi, ça leur a été conseillé par leur psy de voilà, faire des activités douces, faire du jardinage. Donc, ils sont hyper investis dans les potagers collectifs. Et donc, l'ex-propriétaire de la banque est lui-même devenu assez connaisseur. Enfin, il suit des formations en horticulture et tout. Ce banquier, qui était d'ailleurs aussi multipropriétaire, il a dit « Non, mais c'est n'importe quoi ». Il a plus du tout fait partie de ces assemblées-là. Plutôt même, il a commencé à conseiller des amis qui sont eux-mêmes propriétaires en disant que oui, lui, il avait vraiment trouvé quelque chose de nouveau à jardiner, à se rencontrer avec les gens du quartier, aider ses autres amis en dépression de trouver des activités plus créatrices.
Oui, ils ont ouvert à la réinsertion sociale, en fait.
C'est ça, quelque part, il y a plein de propriétaires qu'on voit débarquer dans les réunions de potager, ouais, et beaucoup moins dans leur propre réunion. Ils ont un peu lâché l'affaire.
Ceux qu'on n'arrive pas à convaincre et qui voulaient éviter le procès, ils ont fui à Dubaï, quoi. Mais...
oui, voilà, ils ont déménagé ailleurs. Il y en a qui n'étaient pas trop au jardinage, tout ça, mais par contre, ils trouvaient que c'était une bonne idée de donner des conseils à des ex-collègues. Donc, ils continuent à aller à leur drink entre employés, quoi. Et là, ils font un peu des groupes de contre-lobby.
Je vais continuer mon chemin à travers la fête. Il y a encore beaucoup, beaucoup de stands à aller voir. Je passe à côté de la chorale révolutionnaire qui répète. Il y a de l'ambiance partout. Ça sent les crêpes, il y a du café. Je m'approche d'une tonnelle où est écrit « Gruik ». Il y a plein d'outils étalés partout.
Approchez distribution, tout doit partir. Venez chercher votre arrache-serrure gratuit et profitez des ateliers de formation pour ouvrir et rénover des maisons. Allez, venez chercher. Approchez.
Bonjour. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est le Gruik?
Avec des copains, on a formé un groupe militant qui s'appelle Gruik. Groupe ouvrier d'intervention en construction. C'est le son de la lacagnac, en fait. Comme on avait des amis qui galéraient un peu, on avait vu qu'on avait le besoin de berger les gens, la crise de logement avait passé ses limites, on s'est organisé ensemble, on avait mis en commun des outils matériels, un peu de connaissances techniques pour aider les gens qui ne pouvaient pas payer un plombier, un électricien, etc. C'était fait tout. On n'avait pas encore structuré bien tout dans le cadre légal. À côté, on avait décidé d'aller à des assemblées de voisinage pour voir s'il y avait des gens qui vraiment avaient besoin de soutien ou de l'aide. Alors quelqu'un avait commencé à modifier les compteurs pour faire payer moins les charges ou pas du tout dans les maisons.
Mais vous avez une structure, tu disais? C'est un collectif qui fait dans la rénovation, mais qui fait aussi dans les ouvertures de
lieu,
partager les compétences. C'est
démocratiser les connaissances dans la construction et la rénovation.
Rappelons-nous d'une assemblée qui a eu lieu il y a quelques années. Il y avait été dit que la précarité des squats et des expulsions, ça ne pouvait plus durer. D'autant plus qu'on peut se rappeler, les institutions, elles avaient mis l'occupation temporaire au cœur de leur stratégie néolibérale et de marketing urbain. Cela avait eu comme conséquence que plusieurs squats de logements avaient été vidés pour en faire des guinguettes, des centres culturels et des espaces de coworking. Pour que Bruxelles soit hip. L'assemblée des voisins s'était insurgée. On se fout de notre gueule, ça ne peut plus durer. Il faut qu'on organise le logement de manière plus pérenne.
Aujourd'hui, ces assemblées ont toujours lieu et il y en a une organisée pendant le festival. Je m'approche du centre de la place où sont installées les chaises et je rencontre une des participantes à l'assemblée. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à ces assemblées de voisinage ?
Enfin voilà, moi je suis locataire, on connaît un peu nos propriétaires parce que c'est des amis à certains des habitants. Mais voilà, en fait, ils se sont fait aussi rattraper par ce truc de « il faut rénover ». Et puis ça faisait du coup déjà des années que le bâtiment est tombé un peu en ruine et que en fait, de toute façon, ils avaient envie de revendre parce que voilà, ils avaient envie de faire autre chose, de vivre une autre vie, quoi. Et nous, ça nous pose vraiment problème parce qu'on est attaché à ce quartier, on est attaché au bâtiment. Et donc on a participé aux assemblées des voisins. Au fur et à mesure, on se dit, il est fort, quoi, parce que là, il faut qu'on tape un gros coup. Parce que... Il y a ce truc de rénovation, c'est pas mal. On a réussi, pour des petits bâtiments comme ça, à s'organiser, à mettre en place des groupes qui aident à la rénovation. Et donc, pouvoir dire aux propriétaires, voilà, on le garde. Mais puis après, il y a ceux qui, de toute façon, disent, bah non, on n'a pas envie de s'occuper de ça. Et du coup, ça fait soit de partir les locataires, soit de certains propriétaires qui ne peuvent pas s'en occuper, ils doivent quand même partir, et donc c'est plus possible. Après avoir participé à ces assemblées de voisins, on a commencé à se dire, on va assiéger la commune. On va mettre en place en fait un système de démocratie directe. On a commencé à organiser aussi des grands référendums pour des nouvelles décisions, et notamment par rapport aux fonciers. Se dire qu'on allait mettre dédié 20% de l'argent de la commune à racheter du foncier pour le logement, quoi. On rachète le foncier et puis après, en fait, on met en gestion le bâti par les occupants, quoi. On met en avant le droit d'usage par rapport au droit de la propriété.
Je spécifie pour nos auditeurs et auditrices que le droit d'usage permet de garantir la dimension sociale de l'usage d'un bâtiment face au droit d'un propriétaire. Les communes libres avaient intégré cette notion à leur législation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics peuvent directement céder des bâtiments publics à des coopératives de logement, comme le Community Land Trust, CLTB, ou encore WoundCoop, ou encore d'autres coopératives de logement. Il y a plus de 1000 logements à Bruxelles maintenant qui ont été cédés à des coopératives de droit d'usage par ce biais, ce qui a grandement amélioré la situation du logement. Ça va, vous avez pas l'air d'aller trop bien.
Moi en ce moment ça va pas super fort parce que j'oscille entre une espèce d'euphorie de que le mouvement il prend et c'est trop bien, mais en même temps il y a les répressions aussi qui se radicalisent et ça me fout grave un coup au moral. Là par exemple c'était la cinquième fois qu'on murait le syndicat des propriétaires, anciennement syndicat des propriétaires, et on s'est fait gauler, il y a eu une répression ultra violente, des flics et tout, ça m'a mis un gros coup au moral et du coup je suis pas super bien et je picole pas mal en ce moment et en fait je me réveille en gueule de bois, vraiment un truc intense, et il y a quelqu'un attaché dans mon salon. Faut que je vous explique comment c'est arrivé. J'ai du mal à remettre ce qui s'est passé, mais en fait hier je suis allé à la réunion où on voulait écrire un peu une sorte de manifeste pour le syndicat des locataires, un peu comme le manifeste celui de San Francisco, c'est ça?
Ah ouais,
qui est super bien,
ouais, qui est très beau là. Ouais, il nous a bien inspiré celui-là.
Je connais pas.
Ce n'est pas une crise du logement, c'est une crise des droits des locataires.
Et encore plus loin, ce n'est pas une crise parce qu'elle est calculée. Ouais, et donc, du coup, on la reprend sur cette soi-disant crise du logement, mais aussi sur l'énergie parce que c'est les mêmes. Ouais. Et donc, le même système, quoi. Et donc, cette réunion qui se passe assez bien, fin de réunion. Bon, vu qu'en ce moment je bois pas mal, on picole avec un petit groupe affinitaire comme ça en fin de réunion, et puis on déborde un peu et on discute un peu de cette histoire là, parce qu'il y a le rendez-vous avec tous les promoteurs et les.
Réalty.
Voilà. Et on en discute un peu de ça, et puis on est vénère et tout, et puis là je lance sur le tapis que tu m'avais donné l'adresse de. Et vu qu'on est giga bourré, et bon, on y va. Et en fait, c'est beaucoup plus simple que prévu. Et on l'enlève. Sauf que...
T'as dans ton salon ?
J'ai mon salon. C'est le patron de... Et c'est un peu la panique. Parce que je sais pas quoi en faire. Et je me rappelle plus si je lui ai bandé les yeux pour venir chez moi. Je sais pas. Et donc j'enlève son baillon, commence à gueuler et tout, alors je remets et j'appelle Anna parce que bon, Anna est souvent soutien dans ce genre, et je dis qu'est-ce qu'on fait, et puis au final on se dit qu'il y a peut-être un coup à jouer si on peut pas demander le terrain de Key West arrive contre
rançon, quoi.
Une rançon.
Ah, grosse rançon. La rançon, c'est le genre pas d'autorisation, quoi.
Ouais, ils font sauter
pour tout le projet Key West,
ouais,
c'est
ça. Ils oublient Key West et nous on leur rend.
Je continue à marcher et devant moi, j'aperçois des affiches Wanted. J'approche pour voir qui est recherché. Dessus, je vois les têtes des derniers promoteurs et multipropriétaires à Bruxelles.
Ah mais oui, rappelons-nous que les médias avaient fait grand bruit de la sortie des promoteurs et des multipropriétaires de Bruxelles. Ils disaient « on ne veut plus y investir, il y a trop d'obstacles ». Au dernier Realty, d'ailleurs, les promoteurs avaient traversé un champ de boue pour pouvoir accéder au salon de l'immobilier. Certains ont perdu leur terrain face aux résistances, et plusieurs gros projets avaient été abandonnés face au prix des matériaux, et le sont toujours d'ailleurs.
C'est vrai, l'immobilier n'a plus vraiment la cote à Bruxelles. Dites-moi, vous, qui êtes en train de coller cette affiche, pouvez-vous nous expliquer ce qui a mené au départ des promoteurs et des multipropriétaires à Bruxelles ?
La première condamnation, la première peine d'indignité propriétaire. Le multipropriétaire a été jugé indigne d'être propriétaire et donc il a dû rendre sa multipropriété au commun. Et ça, c'est le résultat du premier tribunal populaire.
Ah oui, c'est vrai. Ça a aussi contribué à faire fuir les investisseurs de Bruxelles. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec les promoteurs de la ZAD de la Digue, n'est-ce pas ?
Bah de fait, en tout cas, moi je crois qu'il y a un truc intéressant qui s'est passé avec l'histoire de la tentative d'expulsion de la ZAD de la Digue. C'est qu'il y a quand même eu encore un été de sécheresse, hein, on se le rappelle. Et on sait que tous ces projets immobiliers, ils sont quand même très néfastes, quoi. Personne s'y retrouve. Et en fait, il y a tout un groupe de gens plutôt hyper formés, avocats, machin, qui font pas partie de nos mouvements, mais qui ont lancé une approche légaliste de l'histoire en utilisant le. Vous savez, cette brèche-là dans le droit de propriété qui a été. Qu'on a commencé à percevoir il y a un ou deux ans, là. Et en fait, il semblerait que. Il y a une piste très sérieuse qui met à l'arrêt aussi le projet d'expulsion, une piste très sérieuse de possible expropriation de l'immobilier et BPI du terrain, puisque leur projet porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la population bruxelloise.
Et dans la loi, il n'y a pas aussi quelque chose genre, qui du coup est passé sur l'obligation de la déminéralisation de certaines parcelles pour que l'eau puisse du coup à nouveau s'infiltrer dans le sol, quoi. Et
ouais.
Donc, en fait, ce genre de projet ne peut plus du tout passer parce qu'en fait... Il peut y avoir un peu de bâti, mais en fait, il faut surtout déminéraliser le sol.
Oui, le truc qu'on a pour nous, c'est que vraiment, on a rendu ce genre de gros machin complètement... Même des gens qui étaient bien peinards dans leur appart, voire multipropriétaires, commencent à trouver ça absurde et du coup deviennent des alliés de fait sur des gros trucs comme ça.
Et là, je comprends pas trop ce que je vois. Je vois des gens qui sont en train de faire une espèce de chorégraphie. Faut que je m'approche. Ah mais oui, c'est un atelier de déplacement face à la répression policière. Je vais demander. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à créer ce genre d'atelier de déplacement face à la répression policière ?
Depuis que le carnaval sauvage a énormément grandi, c'est un public qui n'a pas l'habitude de faire des manifestations. C'est pas des manifestants, le carnaval sauvage. Tous les carnavaliers, on en a marre de se faire frapper sur la gueule. Et là, il y a eu des pratiques, des cours pour se déplacer en grand groupe et faire face à beaucoup de flics. Il y a Masse Critique qui a aussi énormément grandi. Et donc, du coup, à Bruxelles, il y a des grosses masses qui peuvent se déplacer et qui sont formées à se déplacer et qui connaissent bien la ville. Et donc, du coup, là, c'est en train de se mettre. Enfin, ça se met vite en branle sur Signal pour empêcher ça. Et c'est devenu typiquement bruxellois de pouvoir concentrer beaucoup de monde à un endroit et qui sont très mobiles. C'était au même moment,
le
Code Rouge,
ouais,
le carnaval qui en avait marre de se faire frapper, Masse Critique qui prenait énormément d'ampleur. Et donc du coup, déplacement de masse pour faire des actions à 10 000, c'est une particularité bruxelloise.
Est-ce que ce festival, il est autorisé par les autorités ?
C'est vrai que c'est un truc sur lequel les autorités peuvent que concéder, parce que s'il y a un festival, il y a du politique, du festif et tout ça, on peut leur vendre comme un truc qui calme un peu. Je me rappelle que dans... les années 60 à New York, ils avaient concédé un festival complètement taré tout l'été de 1969 et des Woodstock parce qu'il y avait des émeutes tous les étés et à cause de, enfin voilà, normal, hein, ségrégation, tout ça. Le pouvoir public avait accepté ce festival qu'ils n'auraient jamais accepté parce qu'ils l'avaient perçu comme un truc de
pour calmer un peu,
canaliser
l'énergie, quoi. Et donc, au niveau public, ça passe comme ça, mais en fait, il s'en passe des choses dans ce festival, quoi.
Un petit groupe discute après l'assemblée. Je les rejoins. Je vais bientôt partir et j'ai envie de leur demander. C'est bien beau ce festival autogéré qui fête le recul de la propriété privée. Certains souhaitent même son abolition. Mais aujourd'hui, à quoi vous voyez concrètement que cette idée de propriété privée et les institutions qui la perpétuent sont en recul ?
Bah là, tout récemment, le fait qu'on ait, l'année dernière, qu'on ait réussi à récupérer le DK, et là, dans ma rue, ne serait-ce que dans ma rue, mais il y en a eu d'autres, que le voisin, bah, c'est le propriétaire n'est plus propriétaire, et maintenant c'est LTB et la coopérative. Dans le discours, ça change, quoi. Mm. Que culturellement, on se rend compte que... la pratique montre que ça peut être autrement. Ces endroits-là me font dire que... il y a moyen de faire reculer la propriété privée de manière très concrète.
Dans le quartier nord, les promoteurs, ils ont laissé toutes les tours. Elles sont construites, mais elles sont vides. Dans tout le secteur du bâtiment, il y a des ouvriers, des artisans qui ont récupéré ces espaces dans les tours. On crée des espaces de stockage, de matériaux, de ressources. On peut venir chercher du matériel de plomberie et de serrurerie pour ouvrir des squats, pour rénover les apparts. C'est vraiment devenu une mine, quoi.
Ils ont fait une fusion entre Retour et Inlimbo, tout ensemble.
Et ce qui est hyper beau d'ailleurs, c'est qu'il y a des ouvriers du bâtiment qui ont pu quitter leur travail pour rentrer dans ce circuit-là.
Il y a eu un truc que les communes ont décidé quand même de donner tous les papiers sans papiers qui étaient
complètement
régularisés, tous les gens. Et ça a produit quand même une demande de logement. Et ainsi, il y a une masse critique pour pousser les occupations.
Voilà, ça a été un moment très fort, et puis derrière il y a encore plein de choses à régler. Ça pose plein de questions, quoi. Comment on fait après, même si on a réussi à mutualiser pas mal de foncier, comment on fait pour chacun et quand même accès à un logement, comment on fait pour produire les matériaux, les utiliser.
C'est sûr, il reste des choses à imaginer, mais il reste des obstacles aussi, non? Je me rappelle de l'énervement du SNPC, le syndicat national des profiétaires, soit les propriétaires qui tirent une rente de la location d'un logement dans lequel ils ne vivent pas. Le SNPC avait organisé des manifs parce que le prix de revente et de location des logements avait été bloqué.
Ah oui, les manifs du syndicat des propriétaires.
Ouais. Ils ne sont pas beaucoup.
Non.
Pas beaucoup.
Non, nous sommes plus.
Non, et puis ils commencent aussi, enfin ils ont un peu peur parce que l'événement de... ça a donné quand même un peu des idées à certaines communes, soit les communes libres, soit celles en voie de l'aide. Parce qu'il y a eu cette idée à un moment donné, quand il a disparu, qu'il aurait pu être arrêté par les communes libres pour un procès. Mmh. Et alors c'est pas exactement ce qui s'est passé, en tout cas ça, le procès n'a pas eu lieu, mais ça a donné des idées à des gens, notamment à Liège, qui ont arrêté des multipropriétaires pour en faire un procès public.
Oui, c'est un peu devenu des crimes contre l'humanité. Quoi.
Voilà, ce genre de truc, en gros, ça pourrait être mise en danger de la vie d'autrui, parce que tu mets en danger la vie d'autrui quand tu fais vivre les gens dans des trucs inhabitables ou que tu leur fais payer un prix inaccessible.
C'est vrai qu'à Etterbeek, il y a très peu de monde dans les syndicats de propriétaires. Ils ont même, je crois qu'ils ont arrêté de se réunir parce qu'ils étaient tellement peu.
Bon bah, en tout cas, ici c'est pas le cas. Ça part en manif. Paraît qu'il y a un nouveau squat qui va être ouvert. Ne le répétez pas tout de suite. Mais j'ai entendu dire que ce nouveau squat sera dans une tour, le long du canal, dans des logements neufs qui sont vides depuis des années. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Studio, je vous rends l'antenne.
Et pour terminer notre émission... l'horoscope du jour.
Balance, ton proprio. Coup de bélier dans ta banque. Casier vierge pour les enlèvements de promoteurs. La propriété privée, cancer de la société. Ne ratez pas la suite en page 18.
Merci beaucoup.
Merci. Merci.
Salut.
Salut.
Ta-ta.
son étoleur, d'où son hématon, douce verrouilleur, douce verrouillée, le monde est petit quand les verrous sont mis. Ouvre ta porte, retire la clé, ouvre la fenêtre et jette ta clé dans la rue. Ouvre la fenêtre et jette ta clé dans la rue. Si t'aimes les pendules, la propriété, c'est le monde entier. Ouvre ta porte, retire la clé. Ouvre la fenêtre et jette ta clé dans la rue. Ouvre la fenêtre et jette.
L'émission que vous venez d'entendre est une création radiophonique issue des Labos Fictions, intitulée Au-delà de la propriété privée. Elle a été enregistrée en mars 2023 à Bruxelles. D'ailleurs, on en profite pour remercier les participantes des Labos Fictions qui nous ont partagé leurs imaginaires, le Baume Café et la médiathèque Mieux qui nous ont partagé leurs murs. Vous pouvez nous contacter à l'adresse au-delà de la propriété privée @riseup.net. Mais ne partez pas tout de suite. Cette deuxième partie est destinée à vous transmettre l'outil du Labo Fiction et ce qui peut en émerger. Dans notre cas, on a voulu se pencher sur les questions de propriété privée. On est parti du constat que, dans notre société, la propriété privée, c'est ce qui perpétue les inégalités. La propriété privée, c'est ce qui permet la concentration des richesses. Alors on a voulu se demander, qu'est-ce que ça donnerait si la propriété privée cessait de structurer notre rapport au monde? En particulier, pour les questions de logement, comment est-ce qu'on pourrait pérenniser l'usage des espaces où on habite sans devoir passer par la propriété privée?
Mais d'abord, c'est quoi un labo fiction?
C'est un héritage de ce collectif qui s'appelle les ateliers de Lanthémonde. Je ne sais pas si vous avez déjà vu passer le bouquin « Bâtir aussi ». En gros, les ateliers de Lanthémonde, c'est un groupe de personnes qui sont des militantes intermondialistes, en majorité queer, de la région de Lyon-Saint-Étienne, et qui, à début des années 2000, ont commencé à se rassembler pour discuter de leur envie d'écrire des histoires. Elles avaient en tout cas pour envie de raconter des histoires, d'aller dans de la fiction pour nourrir les imaginaires collectifs. Et au fur et à mesure de leur atelier de fiction, elles y ont pris goût, elles se sont dit que peut-être ce serait bien d'écrire carrément ces histoires. Et c'est comme ça qu'une série de nouvelles à partir du monde qu'elles ont créé est arrivée à prendre la forme d'un bouquin qui est Bâtir aussi. Et donc Bâtir aussi, ça raconte quoi? En gros, c'est un moment de basculement qui commence avec les soulèvements au Maghreb, donc en Tunisie et dans les pays voisins en 2011, qui essaime. Et qui fait que dans plusieurs régions du monde, dont la France, des communes se créent, des espaces libérés du capitalisme sont créés, mais après une période de lutte, de guerre en fait. Guerre, famine, etc. Bon. Et se passent quelques années, puis on se projette 10 ans plus tard, des choses sont en place qui permettent d'ouvrir en fait, d'ouvrir l'imaginaire d'autres formes pour organiser l'existence, manger, habiter, etc. Et donc, elles explorent tout un tas de choses. Et ce qui est intéressant dans leur démarche, donc là, on va pas imaginer une guerre, hein, mais ce qui est intéressant dans leur démarche, c'est qu'en fait, elles ont dit, on a envie d'explorer notamment l'histoire de notre dépendance à la technologie. Et donc, elles ont dit, on va imaginer ensemble, si on gardait une machine, par exemple, une machine électronique, ce serait laquelle? C'est laquelle dont on a vraiment besoin pour fonctionner, pour ce monde de 10 ans après. Consciente qu'il y a des problèmes de matériaux, il y a des problèmes d'énergie, quelle serait-elle? Ce serait la machine à laver le linge. Et à partir de la machine à laver le linge, elles se sont dit, où est-ce que serait cette machine à laver le linge? Qui l'utilise? etc. Et elle serait plantée au milieu de la scène. Et puis à partir de là, bah, on déploie le câble d'alimentation et puis on se demande comment est le bâtiment dans lequel est cette machine, etc. etc. Et puis c'est comme ça qu'elles ont imaginé tout un monde qui n'est pas complètement exploré. Et donc ça, c'est la démarche des ateliers de Lanthémon qui sont arrivés à ce bouquin. Et en fait, le bouquin a hyper bien marché, mais aussi, ce qu'elles se sont dit, c'est la pratique de la beau-fiction nous a fait tellement de bien, parce qu'on est tellement calé avec les réalités dans lesquelles on est empêtré, les combats qui sont difficiles, notre fatigue militante, les destructions qui avancent, enfin, on sait plus pas. On a besoin d'imaginer autre chose, de déboucher les horizons, quoi. Et donc, on a envie de partager cette pratique qui nous a fait du bien. C'était ça leur démarche. Et donc, l'idée des labo-fictions, c'est de, à partir d'un scénario, donc elles le font à partir de leur scénario, nous ici, on va vous proposer un autre scénario, à partir d'un scénario, on se plonge dans une réalité modifiée, qui n'est pas un truc de science-fiction qui se passe en 2350, hein, c'est dans 2-3 ans. On passe dans une fiction, une réalité modifiée, qui va ouvrir des possibilités, qui nous permet d'envisager les choses avec plus de souffle, quoi, que ce qu'on a aujourd'hui, et d'explorer ensemble des possibilités. Et une des choses qu'on a décidé de faire sciemment quand on a commencé avec Maëlys, puis après avec Anna et avec Roxane, et avec les autres personnes avec qui on a fait des ateliers 1 et 2, c'est de ne pas se mettre dans un futur trop lointain, pour en fait se donner la possibilité d'explorer aussi des... En gros, pouvoir se dire, et si on faisait comme ça, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Et globalement, tout l'exercice du labo fiction, c'est ça, c'est se dire, et si on faisait ça ? Qu'est-ce qui se passerait après ? Et qu'est-ce qui pourrait se produire ? Et donc là, ce qu'on vous propose, c'est de faire un « et si » pas trop lointain, dans une réalité un peu modifiée, à Bruxelles et ses environs, et de se donner la possibilité de dépasser les obstacles. Donc en gros, on va pas se dire « ouais, mais là, non, c'est pas possible, c'est pas réaliste ». Non, en fait, on va dépasser les obstacles. Peut-être que parfois, on va faire un peu de magie, quoi. Genre, si c'est bon, ça marche, ça passe. Sinon, on se coince et on n'arrive pas à avancer. Et avec un peu de chance, ça va nous amener dans des endroits qui...
Mais quand même, ce qui se passe, c'est que on crée un scénario, mais on cherche pas des solutions ici. On va pas chercher à résoudre des choses. L'idée, c'est vraiment d'explorer et de, comme tu dis, qu'est-ce que ça donnerait si on fait ça. On va rien résoudre, on va pas être d'accord, mais on va composer avec tout ce qu'il y a et qui fait les histoires, quoi. En fait, on part sur une utopie qu'on appelle une utopie merdique. Je vous refais une petite lecture pour nous plonger. L'utopie merdique, ça vient aussi des ateliers de l'enseignement. Nous avons repris cette expression d'utopie merdique pour mettre le désirable à l'épreuve du réel. Dans notre pratique d'autogestion, nous avons l'expérience de fonctionner à plusieurs et de composer avec des personnes avec qui nous ne sommes pas d'accord. Il y a un enjeu à penser des formes de démocratie dans ces contextes-là. Pas uniquement avec des gens avec qui on s'entend, mais avec tout le monde. Et cet enjeu devient, comment on fait avec ce qui résiste ? Ce qui est en conflit d'un point de vue humain et d'un point de vue matériel. Même le désirable va se confronter tout le temps au fait que c'est difficile, que ça résiste, que ça coince et que c'est la vie. Et que si c'était pas ça, en fait, ça serait louche. L'utopie, ça peut pas être parfait. Elle peut travailler sur le fait de comment ça reste désirable, malgré le fait qu'il faut se faire chier, quelque chose comme ça. Et qu'en fait, ça va continuer, et que ça ne s'arrêterait pas. C'est un processus, et c'est ce qui est le sel de nos vies en collectivité ou en société. C'est une méthode pour permettre d'anticiper.
Et comment ça s'est déroulé ?
On a d'abord passé une bonne demi-heure à s'immerger dans des histoires réelles qui nous inspirent. On s'est raconté, ou on a lu à tour de rôle, des histoires de différentes époques, des récits de luttes victorieuses. Par exemple, l'usage des communaux par les serfs au Moyen-Âge, que raconte Silvia Federici dans son livre « Caliban et la sorcière ». Ou encore, le mouvement de récupération des terres qui a duré des années 30 aux années 70 au Chili. Le Mithauser Syndicate en Allemagne, le village autonome de Marina Leda en Andalousie, les apatistes au Chiapas, toutes les initiatives autour du droit d'usage en France, la déviation à Marseille, la fondation Ancrage à Nancy, etc.
À ce sujet, je voulais vous lire un truc. Voilà, une espèce de faille. C'est l'avocate de la GKMIN qui est un squat de sans-papiers à Watermel en ce moment. Et là, elle a fini les conclusions, parce qu'il y a bientôt le procès, enfin, elle a fini son dossier, quoi. Et donc, elle écrit, donc il y a un sous-titre, c'est « Le droit de propriété n'est pas absolu ». Le droit de propriété n'est pas absolu, ou du moins, il ne l'est plus. Le code civil belge a été récemment modifié afin d'adapter le texte légal, désuet et conformé à la réalité de la société. L'article 3.50 du livre 3 définit aujourd'hui le droit de propriété comme suit. Le droit de propriété confère directement au propriétaire le droit d'user de ce qui fait l'objet de son droit, d'en avoir la jouissance et d'en disposer. Le propriétaire a la plénitude des prérogatives sous réserve des restrictions imposées par les lois, les règlements ou par les droits de tiers. Cette nouvelle définition du droit de propriété ne fait plus référence au droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Donc ça, ils l'ont enlevé. En lui préférant l'expression plus modérée de la plénitude des prérogatives. Je trouve ça un peu obscur, mais apparemment c'est plus soft que le... Il y a là la confirmation explicite dans le chef du législateur que le droit de propriété n'est pas absolu. Et donc, du coup, c'est ça la défense pour la Gécamine, un peu.
Ah,
waouh. J'étais incroyable. Et c'est elle qui m'envoie ça, qui me dit trop bien pour vos récits et tout ça. Ça... Et
c'est à diffuser largement, ça.
Ouais. Ouais. Ah bah ouais. Hein.
Ah ouais.
Parce que plénitude des prérogatives, ça veut dire que t'es contenu dans les prérogatives.
C'est ça.
Alors que absolu, t'es au-dessus de tout, quoi. T'es...
Bah d'ailleurs, ça passe au-dessus du droit au logement. Ça passe.
C'est vrai qu'à partir de ça, on peut aller chercher dans les coins et dire ouais, mais enfin là, il y a pas, disons, de t'as pas de prérogatives définies, établies sur ce plan-là, et donc.
C'est ça.
Je suis pas sûr. Hein.
C'est le titre.
Alors, pas sûr, parce que c'est quand même énorme, la plénitude des prérogatives. Enfin, on n'est pas là pour ça.
En tout cas, nous, on va aller aussi chercher dans les coins.
Et surtout dans les rondes.
Ensuite, en partant du réel, on a basculé petit à petit dans la fiction. On a lu un scénario qu'on avait préparé en amont, qui part d'une situation initiale qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, assez catastrophique. Situation initiale dont on fait évoluer les éléments. Au début, ça a plutôt tendance à s'empirer.
Et en attendant, la situation sur le terrain, c'est tellement comme ça que fin mars, il y a un Housing Action Day. Et en fait, c'est un énorme succès. On peut être content que c'est un énorme succès, mais en fait, c'est la crise, quoi. La situation, elle est plus tenable, on entend. Il y a les multipropriétaires, il y a l'insalubrité, il y a les rénovations qui ne sont pas faites et qui font que les gens vivent mal. Il y a de la colère, il y a beaucoup de colère. Plusieurs actions, tout au long du mois de mars, mettent la question du mal-logement au cœur des préoccupations des gens. Devant les médias, mais aussi dans les gens, pour les gens. Et il y a des centaines de gens qui marchent en masse dans la rue au Housing Action Day.
Notre point de départ, ça a été que des lois sont en train d'être mises en place pour la rénovation des maisons. Cette rénolution, pour nous, c'est une rénoviction. Rénovation, éviction. Qui va toucher les personnes dans les logements en mauvais état qui sont localisés pour beaucoup dans les quartiers populaires. Et globalement, cela va faire avancer le fonds de gentrification à Bruxelles.
Mais les résistances existantes se consolident petit à petit, des nouvelles résistances apparaissent, et ensemble, arrivent à faire basculer le rapport de force.
Les propriétaires se mettent à revendre leurs maisons, parce qu'ils n'ont pas l'argent de faire les rénovations. Il y a le centre-ville de Bruxelles et des parties de Molenbeek qui se vident de leurs habitantes. Le nombre de personnes qui dorment à la rue gonfle, de manière spectaculaire. Au final, les gens se rassemblent sur les marches de la Bourse, investissent l'espace, et aussi sur la place communale de Molenbeek qui installent des tentes. Et en fait, ça crée des rencontres. Il y a des permanences dans les squats, parce que il y a les gens qui sont expulsés, mais il y a aussi des squats qui sont toujours à Bruxelles. On n'a pas réussi à tous les fermer. Et donc les gens se rencontrent. Ils discutent. Ils se créent des collectifs selon leurs affinités. Il y a des anciens propriétaires. Il y a des anciens locataires qui se connaissent de leurs immeubles ou de leur quartier. Il y a des groupes de femmes. Pendant que tous les gens discutent, on organise des garderies pour les enfants. On s'aide à remplir les papiers pour récupérer l'assurance, les aides sociales. Il y a des dynamiques qui se créent. Il y a des associations d'aide au logement qui créent des espaces pour venir se mettre au chaud, pour boire un café. Il y a des nouveaux groupes qui se forment un peu dans tous les sens. Il y a un peu de l'autogestion qui se met en place, différents collectifs se créent.
On est donc parti de ce scénario et petit à petit on a imaginé ce que ça pouvait créer. Sur base de ce scénario, chacun imagine son personnage. Qui seriez-vous dans un an ? Comment auriez-vous vécu ces changements? Où vous réveillez-vous le matin? Qu'allez-vous faire? C'est important de partir de soi, pour partir de ce qu'on connaît, et imaginer ce qu'on peut faire soi à son échelle. C'est pas obligé d'être réaliste, mais c'est important de partir de soi.
Ensuite, par deux, les personnages racontent leur histoire et imaginent ensemble dans quelle situation ils se sont rencontrés.
Enfin, en tout cas, moi, la façon dont je me projeter dans ce monde-là, dans quelques années, c'est plutôt essayer de développer des... plutôt que de théoriser, je raconte quoi. Alors, en gros, dans mon quartier, ce qu'on a fait, nous, parce qu'on a voulu réfléchir à partir du local, quoi, de ce qu'on avait sous la main. Et donc, ce qu'on a sous la main, c'est le parc Josapha, notamment, et puis c'est la friche Josapha, et puis... Allez.
Cette histoire commune, chaque binôme revient à la partager au groupe. Chacun se présente, une personne raconte, et les autres rebondissent, complètent, interagissent.
C'est comme ça qu'une histoire collective commence à émerger. Cette histoire s'inscrit plus ou moins dans le scénario qui était imaginé à la base. Le ou la narratrice peut intervenir avec des nouveaux éléments, pour relancer la conversation ou insister sur un aspect particulier du récit.
Quand tous les personnages ont été introduits dans l'histoire, la narration fait intervenir des obstacles au bon déroulement de l'histoire imaginée. Les obstacles, ça peut être la répression policière, des choix politiques, les informations mensongères des médias. Tout cela selon le sujet du scénario que vous avez choisi. Mais le principe, c'est que les obstacles, on va les dépasser. Pour ça, on va imaginer ensemble des manières de faire sur base du récit collectif. C'est une manière d'entraîner le récit plus loin et de chatouiller notre imaginaire.
Enfin, pour terminer, on se raconte ce qui serait écrit dans les journaux du jour d'après, le jour suivant. Quels seraient les titres qu'on a envie de lire? Vous les avez entendus au début de la première partie de l'émission.
Radio, texte, carte, maquette, après, ouais.
Et
après, c'est
direct.
Action directe.
Dales acción, busca fe. Dales acción, en la calle.
¿Quieres acción? Esto no se ha terminado. Mira, hay más dedos. Vamos a dejar de jugar. Hay que tirar esa puerta. Patada, y se acabó.
Et toi, ton logement?
Rassemblons-nous le 26 mars 2023 pour faire valoir notre droit au logement.
Habiter dans un logement décent, c'est une base nécessaire pour se construire une vie stable. Aujourd'hui en Belgique, nous sommes de plus en plus nombreuses à faire face à des loyers excessifs et des charges exorbitantes. Des logements insalubres, des pratiques illégales et discriminantes de la part des propriétaires. Une justice de paix inaccessible, une administration parfois incompréhensible. Bref, nous avons de plus en plus de difficultés à trouver un logement et à avoir la sécurité de pouvoir y rester.
Cette situation n'est ni acceptable ni normale. Ça suffit. Nous sommes convaincus de pouvoir changer cette situation. Il ne s'agit pas d'un problème individuel. La crise du logement nous concerne tous et toutes. Nous appelons donc à l'organisation d'un mouvement collectif pour le droit au logement en Belgique.
Nos exigences. Une baisse des loyers immédiate, la fin des expulsions et la régularisation pour toutes et tous, plus de logements sociaux et d'alternatives au marché privé.
Rejoignez-nous le 26 mars 2023 à 15h à la station Comte de Flandre.